Aujourd'hui, donc, nous allons essayer d'aborder la question qui a trait à la logique et à la sémantique des attributions dispositionnelles. Je vous rappelle que la dernière fois, dans l'introduction, j'avais insisté sur plusieurs points importants s'agissant de déterminer en quoi consistaient vraiment les étapes qui avaient été décisives dans l'admission, n'est-ce pas, en métaphysique et en philosophie des sciences, d'une certaine réalité des propriétés dispositionnelles. On avait vu que un premier pas, c'est vrai, avait été celui qui avait été accompli par des philosophes comme David Armstrong en faveur de ce qu'on appelle la position catégoricaliste. Et donc, cette position qui revient à considérer que, de fait, les dispositions sont des propriétés. Mais on avait vu aussi que la position à laquelle on parvenait, n'est-ce pas, c'est que finalement, on pouvait se demander, dans une position de ce genre, si les dispositions, finalement, dans la mesure où elles restent réductibles, ou bien identique en fait à d'autres propriétés, hein, les propriétés de base, les propriétés catégoriques, comme celles de forme ou de localisation spatio-temporelle, si finalement on a quand même, sur le plan ontologique, gagné beaucoup en épaisseur, n'est-ce pas, dans la réalité des dispositions. Donc, pourquoi est-ce que, en effet, on pouvait avoir quelques hésitations concernant cette position? Eh bien, parce que ce que dit un partisan de ce type d'attitude, n'est-ce pas, c'est que, sauf si on admet qu'une disposition comporte une base qui n'est pas dispositionnelle, eh bien, on n'a vraiment aucune raison, n'est-ce pas, de postuler une telle propriété entre ces manifestations. Donc, si l'on veut expliquer l'existence d'un prédicat dispositionnel, il nous faut absolument admettre ou considérer que ce prédicat dépend d'une base catégorique qui elle, ne l'est pas, qui n'est pas, elle, dispositionnelle. Donc, et c'est en vertu de la réalité de cette base qu'on peut évoquer le terme de réalité appliquée à la disposition. Donc, sur ce plan, vous vous souvenez, Armstrong est très clair, hein, parler d'un objet comme ayant une propriété dispositionnelle implique logiquement que l'objet soit dans un état non dispositionnel, ou qu'il possède une propriété, c'est-à-dire qu'il existe une base catégorique qui est responsable du fait que l'objet manifeste un certain comportement. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en définitive, j'avais insisté sur le fait que pour Armstrong, au fond, comme pour Quine, n'est-ce pas, c'est, en définitive, vous voyez, ce n'est pas aux métaphysiciens de nous informer sur les propriétés réelles des objets, en définitive. Ça, le dernier mot, c'est le savant qui l'a, puisque seul le savant est capable, au fond, de nous dire de quoi est faite la nature, la propriété naturelle de base. Donc c'est lui qui est capable de découvrir la nature concrète, en quelque sorte, de la disposition. Bon. Et par ailleurs, le doute, le soupçon reste entier quand même sur les dispositions dans ce qu'on pourrait appeler l'actualisme d'Armstrong, c'est-à-dire cette idée que, au fond, ce qui compte véritablement comme critère, n'est-ce pas, de réalité d'une propriété, c'est qu'on puisse tout de même montrer à un moment ou à un autre qu'elle se manifeste, hic et nunc, n'est-ce pas? Bon. Et donc, il y a une suspicion à l'égard de ces propriétés dont on n'est pas bien sûr qu'elles se manifesteront, qu'elles ne se manifesteront pas, qui ont une allure de propriété, au fond, intentionnelle, n'est-ce pas? Et qui, justement, semblent parler en faveur d'états de choses qui seraient à mi-chemin entre l'existence et la non-existence. Qu'est-ce que c'est que cette figure ontologique ? C'est assez étrange. Et Armstrong est donc relativement dubitatif quant à l'idée d'une véritable ontologie réaliste des dispositions. Bien. En tout cas, ce qui paraît clair, c'est que, et j'avais déjà insisté sur ce point, à plusieurs reprises, vous verrez, nous aurons à souligner l'importance de cet aspect, si ce qui est caractéristique d'une propriété, c'est vraiment qu'elle ait une certaine efficience causale, n'est-ce pas ? Parce que ce qui est finalement, au fond, caractéristique de la réalité d'une chose, c'est que nous puissions entrer en contact avec elle, n'est-ce pas ? Bon. Il est clair que réduire une disposition à une base réelle qui ne serait que dispositionnelle reviendrait, dans l'esprit d'un actualiste comme Armstrong, à réduire le réel à quelque chose qui relève d'une simple potentialité, hein, et qui n'est finalement pas si éloigné que cela, hein, de toutes les entités scolastiques, naturellement, auxquelles il ne s'agit pas de revenir. Bien. Alors, la question, évidemment, qu'il convient à ce stade de se poser, c'est celle de savoir si, finalement, le seul choix qui reste, si on veut admettre quelque chose comme une réalité des dispositions, c'est de se tourner vers une position qui considérerait que il n'y a pas lieu de faire une distinction, n'est-ce pas, entre le caractère dispositionnel et le caractère catégorique d'une propriété. Je vais revenir tout à l'heure sur ce point plus précisément lorsque nous parlerons des attributions, de la question des attributions des propriétés catégoriques et dispositionnelles et de la pertinence ou non de la distinction qu'il convient de faire à ce sujet. Mais vous voyez bien que, en tout cas, une première stratégie pour éviter d'être déçu par l'engagement armstrongien trop minimal, ce serait de dire, eh bien voilà, il n'y a aucune espèce de différence entre les dites propriétés. Et peut-être que, au fond, on peut faire l'économie des propriétés catégoriques et dire que toutes les propriétés sont de part en part, n'est-ce pas, dispositionnelles. Bon. Alors, j'avais déjà attiré votre attention sur le fait qu'une position de ce genre risquait tout de même de nous entraîner vers une forme d'idéalisme, pour plusieurs raisons sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir, n'est-ce pas, et que ce n'était sans doute pas non plus forcément la meilleure position d'emblée à adopter pour répondre aux difficultés de la stratégie armstrongienne. Bien. Alors, il nous reste maintenant à essayer de comprendre comment on peut déjà, sur le plan sémantique et logique, essayer de tirer au clair un certain nombre de difficultés que nous avons commencé à relever s'agissant de la manière justement dont on peut éventuellement, sur le plan conceptuel, sur le plan logique, sur le plan sémantique, rendre compte, n'est-ce pas, de façon sensée, des énoncés qui sont les nôtres lorsque nous essayons de faire référence à de telles propriétés. Bon. Pourquoi, en effet, est-ce que cela est important ? Eh bien, parce que même si, bien entendu, il ne s'agit pas de considérer que l'analyse sémantique est celle qui nous donnera d'entrée de jeu ce que nous sommes en droit d'attendre d'une analyse ontologique, dans la mesure où un prédicat n'est jamais qu'une ombre de propriété, n'est-ce pas ? Et que nous ne devons jamais prendre le mot pour la chose, il n'empêche que si nous ne commençons pas tout simplement à nous demander comment nous pouvons tout simplement parler de ces propriétés, si les propositions que nous utilisons pour en parler ne sont pas seulement fausses, mais peut-être tout simplement dénuées de sens, ce n'est peut-être même pas la peine d'aller plus loin, n'est-ce pas ? Je vous rappelle qu'une règle qui est la nôtre, lorsque nous essayons de travailler dans le domaine de la métaphysique, et là nous sommes au cœur d'une question métaphysique, qui est essayer de déterminer quelle est la nature d'une propriété, n'est-ce pas ? Donc, non seulement de quoi le monde est fait, mais quelle est la nature des propriétés qui constituent le monde ? Il est entendu que nous devons commencer là où il faut commencer, c'est-à-dire par l'analyse des propositions, de la manière dont nous en parlons. Bien. Et si nos énoncés à ce propos n'ont aucun sens, eh bien, il y a de fortes chances pour que nous ne parlions tout simplement de rien. Bon. Donc, première exigence, il convient d'abord de voir si notre examen logique et sémantique porte quelques fruits. Bien. Pouvons-nous donner sens, autrement dit, aux attributions qui sont les nôtres de propriétés dispositionnelles ? Bon, j'avais aussi déjà évoqué plusieurs difficultés, peut-être que vous vous en souvenez, mais je les rappelle brièvement. Il y en a au moins quatre qui se présentent à nous lorsque nous voulons essayer de donner sens, n'est-ce pas, à des propositions qui font intervenir des propriétés dispositionnelles. La première difficulté, et nous l'avions vu en étudiant justement les tentatives de réduction aussi bien de Carnap que de Ryle, n'est-ce pas, il faut que nous essayions de montrer logiquement, n'est-ce pas, si nous pouvons établir un lien analytique entre les attributions dispositionnelles et une certaine manière de procéder à des énoncés logiques qui ont la forme de conditionnel. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire qu'il faut en particulier que nous puissions donner sens au principe de carnapien, hein, de traduction des dispositions en des énoncés de réduction. Bien. Je rappelle très vite ce à quoi Carnap était parvenu. Il faut, n'est-ce pas, première difficulté, n'est-ce pas, que si nous sommes en présence d'un énoncé tel que pour tout x, x est fragile, nous puissions réduire de façon valide, n'est-ce pas, cet énoncé dans quelque chose comme si on laissait tomber x, il se briserait. Bon. Et c'est justement ce type de tâche que Carnap essaie de mener à bien dans Testability and Meaning en particulier. Et il s'aperçoit que, de fait, on peut définir les dispositions sous la forme de termes du conditionnel, en termes de conditionnel du type 1, si x était placé dans l'eau, x se dissoudrait, c'est-à-dire en termes de conditionnel, vous vous souvenez, contrefactuel. Bon. Mais deuxième chose dont il s'aperçoit presque aussitôt, c'est que si nous donnons une interprétation philonienne du conditionnel, si nous interprétons donc le conditionnel de cette manière, en réalité, x est soluble ne peut pas être équivalent en signification à un énoncé conditionnel matériel du type « si x est placé dans l'eau, il se dissout ». Puisque cet énoncé est vrai, peut être vrai si l'antécédent est faux et a donc pour conséquence qu'un objet qui n'est jamais placé dans l'eau pourrait se dissoudre. Pardon. Vous vous souvenez, bon, je ne reviens pas là-dessus, hein, cela relève évidemment des paradoxes de l'implication matérielle et de la table de vérité de l'implication. Bien. Donc, c'est précisément parce que Carnap est conscient de cette difficulté qu'il admet qu'il n'est pas possible de donner une définition vérifonctionnelle, donc des attributions dispositionnelles, hein, mais finalement qu'il considère que ce n'est pas bien grave, n'est-ce pas, cette incapacité en un sens logique n'est pas bien grave parce que, pense-t-il, on peut toujours, ou du moins tant qu'on peut les réduire, ces énoncés, à des énoncés observationnels, eh bien, au fond, on a tout ce dont on a besoin pour effectuer un énoncé correct, bien, doué de sens. Voici ce qu'il dit. Tous les termes scientifiques peuvent être introduits comme des termes dispositionnels sur la base de termes observationnels, hein, soit par définition explicite, soit par ce qu'on appelle des énoncés de réduction qui constituent une sorte de définition conditionnelle dont la formulation est la suivante. Si n'importe quel X est mis dans l'eau à n'importe quel temps T, alors X est soluble dans l'eau, X se dissout au temps T, et si X n'est pas soluble dans l'eau, il ne se dissout pas. Bon. Et au fond, eh bien, si nous voulons faire des énoncés sur les dispositions qui soient douées de sens, il suffira tout simplement d'ajouter, n'est-ce pas, à l'énoncé de réduction la clause suivante. Chaque fois qu'un énoncé n'est pas vrai, à n'importe quel temps T, dans des cas non testés, eh bien, nous dirons simplement qu'il n'est ni vrai ni faux d'attribuer la disposition. Donc vous voyez, on sauve les meubles, si j'ose dire, en disant que dans des cas de ce genre, on ne procède ni à une affirmation, ni à une négation de la présence de la disposition. Nous disons tout simplement, eh bien, qu'un énoncé de ce genre n'a pas de valeur de vérité. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons aucun contenu empirique déterminé dans la proposition et par conséquent, nous ne pouvons pas faire un énoncé dont nous puissions dire qu'il est doté de signification. Bien. Bon, c'est évidemment là une lecture tout à fait satisfaisante si on est un vérificationniste bon teint. Et donc... si évidemment on accepte de dire que la définition d'un énoncé dispositionnel se réduit, si on veut qu'elle soit correcte, n'est-ce pas, au seul cas où elle est en train, la disposition, de s'actualiser. Bon. Alors évidemment... tout ceci, nous l'avons vu, est quand même très contre-intuitif, n'est-ce pas ? Parce que on a quand même envie de dire, par exemple, lorsqu'on veut dire de tel ou tel objet, d'un diamant, par exemple, qu'il est dur, qu'il n'a pas quand même commencé à être dur au moment où on l'a soumis au test, naturellement. On a l'impression qu'il possédait cette propriété avant, et puis qu'ensuite, il va continuer à la posséder. Et qu'en un sens, le fait qu'il s'actualise ou pas ne change pas grand-chose à la question même de sa réalité. Vous voyez ? Bon. Donc, si vous dites seulement « Ah, bon, tant que je n'ai pas le test, la propriété n'a pas de sens », il n'y a aucune différence entre une chose dure et une chose molle tant qu'on ne les a pas soumises au test. C'est relativement, peut-on dire, contre-intuitif, n'est-ce pas ? Donc, ce qu'on aimerait quand même pouvoir dire, justement, c'est d'un objet qu'il a cette propriété et premièrement, qu'elle est bien réelle, et deuxièmement, qu'elle est réelle, même au moment où elle ne se présente pas, hic et nunc. Bon. Deuxième chose aussi qui est un petit peu gênante dans le cadre de la solution carnapienne de réduction, vous vous souvenez, c'est que, au fond, on a l'impression que dans une analyse de ce type, il y a quelque chose qui concerne aussi une propriété importante de la disposition, à savoir sa mutabilité, qui est, en un sens, relativement évacuée. Bon, donc... est-ce qu'il y a un moyen, vous voyez, c'est la première difficulté, est-ce qu'il y a un moyen de faire mieux, n'est-ce pas, que la réduction carnapienne pour donner un sens à des propositions de ce genre, ou bien est-ce que finalement on n'a pas grand moyen en procédant de cette nature pour parvenir à une solution satisfaisante. Deuxième difficulté, si vous vous en souvenez, Eh bien, c'est que il y a toute une série de difficultés classiques, indépendamment même de la question de l'examen sous la forme logique des énoncés conditionnels. Il y a toute une série de difficultés classiques qui sont propres au conditionnel non vérifonctionnel. Et donc, c'est d'une certaine façon à toute la logique des conditionnels non vérifonctionnels qu'il faut s'atteler si on veut vraiment essayer de trouver une réponse satisfaisante à nos dispositions. Et ce n'est pas une mince affaire, je puis vous le dire, parce que jusqu'à présent, les différentes solutions qui sont envisagées, aussi subtiles et sophistiquées qu'elles soient, se heurte à, semble-t-il, un certain nombre de difficultés assez difficilement surmontables. Bon. En tout cas, vous voyez que le genre de difficulté qui apparaît dans le cas précis que l'on voit à l'œuvre dans l'exemple de réduction carnapienne, n'est-ce pas, c'est le fait que on ne peut pas conclure à l'implication du conditionnel, n'est-ce pas, à la différence de ce qui se passerait si nous avions affaire à un conditionnel vérifonctionnel, ni du fait qu'on ne laisse pas tomber X, ni du fait qu'il se brise. Vous voyez? Bon. Donc, si on peut conclure ni l'un ni l'autre, à quoi est-on? On n'est pas avancé à grand-chose, en quelque sorte. Vous voyez? Bon. Donc, est-ce que avoir recours à ce type d'analyse n'est pas en un sens une perte de temps? Troisième difficulté, une difficulté encore plus délicate, est celle qui est soulevée justement d'une part par ce qu'on a appelé le problème des antidotes, et d'autre part par le problème des dispositions traîtresses, finkish dispositions. Hein. Bon. Premièrement, c'est le cas, vous vous en souvenez, où, donc là vous avez affaire à une difficulté de type antidote, le fait de laisser tomber par exemple une chose fragile A sur un sol dur, soit ramollit le sol, soit provoque la non-fragilité de A. Vous utilisez un dispositif qui permet justement d'intervenir dans la liaison de telle manière que vous rompez effectivement la relation qui allait bien. Et donc vous obtenez le résultat inverse de celui auquel théoriquement votre conditionnel aurait dû vous conduire naturellement. Donc, deuxième cas, c'est le cas où la fragilité est traîtresse, en quelque sorte. A ne se brise pas, hein, ce qui falsifie le conditionnel qui est censé impliquer logiquement X est fragile. Donc, est-ce qu'on a les moyens, n'est-ce pas, de contrer cette difficulté? Quatrième difficulté, enfin, vous vous souvenez, et je dirais qu'en un sens, elle est celle qui est, pourrait-on dire, a priori encore plus difficile à lever, c'est celle qui a trait à la question de savoir si un énoncé de réduction est suffisamment vaste, si vous voulez, ou suffisamment ouvert pour nous dire, parce que c'est de là qu'il s'agit, n'est-ce pas, pour donner un sens, hein, à tous les prédicats de disposition. Et nous l'avions vu, c'est notamment préoccupant lorsqu'on essaie justement d'utiliser cette astuce pour expliquer un certain nombre de propriétés dispositionnelles, cognitives ou éthiques. Donc vous voyez quatre difficultés qui ne sont pas minces. Si nous voulons être sûrs que nous donnons du sens à nos énoncés. Alors, un mot sur les solutions et sur ce qu'elles valent. Bon, une manière de répondre évidemment à la difficulté carnapienne, là on l'a vu aussi rapidement, c'est au fond d'essayer de bifurquer en adoptant une position un petit peu plus souple, pourrait-on dire, ou plus souple, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais enfin, plus délicate, en un sens, qui est le mode de réduction raëlien. Bien. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même très, très intéressant, on l'a vu dans la façon dont Ryle commence à aborder le thème des propriétés dispositionnelles, et qui n'apparaissait pas dans les autres manières de présenter les choses. Ryle insiste beaucoup sur quelque chose qui me semble très très important et qui va prendre d'autant plus d'importance, vous verrez, dans l'ontologie réaliste que nous allons essayer de défendre, qui ne sera pas une ontologie des substances précisément, pas des objets, mais peut-être plus de quelque chose qui oblige justement à penser beaucoup plus des relations causales, un réseau de relations, vous voyez, des mises en rapport de certaines choses, ça, plus que une série de substances qui seraient les unes à côté des autres, hein, atomisées, hein, selon une sorte de mosaïque d'entités, régulièrement orchestrées, certes, mais placées les unes à côté des autres, sans liaison intrinsèque les unes avec les autres. Bon. Eh bien, ce que dit Ryle, ce à quoi il est très attentif, et je crois qu'il y a une idée très juste là-dessous, c'est au fait que, justement, les dispositions se trompent complètement si on essaie de se les représenter comme des substances, vous voyez. Ça ne peut pas être quelque chose comme une substance, ou même quelque chose qu'on pourrait réduire à un événement ou à un état de choses, hein. Donc, ou même à une activité. Hein. Ça veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire que vous ne pouvez pas affirmer que la disposition est quelque chose que vous allez en quelque sorte pouvoir épingler en disant qu'elle a une localisation dans l'espace et le temps. Vous vous rappelez, ça c'est un point très très important, je crois, qui n'a pas été très bien vu par un certain nombre de logiciens et de métaphysiciens. Bon. N'oubliez pas une chose, quand on dit cela, ça ne signifie pas du tout qu'on évacue l'idée d'une certaine temporalité des dispositions. Vous vous rappelez, les dispositions peuvent s'inscrire, elles doivent même s'inscrire dans une certaine durée. Sinon, on ne pourrait pas comprendre comment elles se mettent en action, comment éventuellement elles prennent fin. Bon. Mais c'est très différent. Ontologiquement, vous voyez, cela risque de nous conduire, si Ryle a raison sur ce point, vers une ontologie qui est peut-être une ontologie assez différente d'une ontologie substantialiste. N'est-ce pas ? Si nous voulons rester fidèles dans un réalisme des dispositions, à des dispositions, ben, ça ne pourra pas être des sortes d'entités que nous posons, vous voyez, comme nous poserions des substances, comme nous poserions même éventuellement des événements, ou comme nous poserions même peut-être des relations. Bon, donc je crois qu'il faut avoir cela à l'esprit. Une fois de plus, vous voyez, cela nous donne la direction d'une propriété extrêmement importante de la disposition, c'est-à-dire qu'il est très difficile de la penser indépendamment de ce qu'elle constitue un pouvoir causal. La disposition est quelque chose qui est comme intrinsèquement lié, vous voyez, à l'idée de la causalité. Et ça, nous verrons que c'est aussi peut-être bon, quelque chose qui est évidemment qui permet d'expliquer sa réalité, mais c'est aussi évidemment peut-être lâcher la proie pour l'ombre, parce que nous savons tous aussi qu'il n'y a rien de plus compliqué à analyser et à comprendre métaphysiquement et logiquement parlant que la causalité. Nous savons tous même que, en un sens, les scientifiques ont été bien contents lorsque, à l'époque moderne, ils ont dit « Ouh là 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 là, on ne s'occupe plus de causes, hein, on s'occupe de lois. » Bon. Donc, vous voyez que peut-être de dire que les dispositions sont une propriété ontologique qui est relativement indissociable de la propriété de causalité n'est pas forcément quelque chose qui nous conduira à plus de facilité que nous pourrions penser au début. Peut-être que ce sera une somme de difficultés ultérieures dont il faudra essayer de rendre compte. Vous voyez. Mais en tout cas, je pense que nous ne pouvons pas, en tout cas, accepter des propriétés dispositionnelles dans notre ontologie, et c'est le mérite de Ryle que de le montrer, si vraiment nous restons complètement pris dans cette mythologie substantialiste, n'est-ce pas, et atomisée, à laquelle nous convie le plus souvent un certain nombre de métaphysiques, vous voyez, substantialistes, qui partent de l'idée qu'il y a des objets qui sont des substances, qui ont telle propriété, voilà. Il faudra peut-être que nous déconnections un petit peu notre réflexion métaphysique sur les dispositions d'une ontologie de cette nature. C'est pas bon. Alors, je crois donc que c'est très important de dire cela. J'y reviens parce que je ne l'avais peut-être pas mis suffisamment en valeur lorsque je vous ai parlé la dernière fois de l'opération de réduction rallienne. Vous voyez, je crois que c'est vraiment là un élément très riche qu'il introduit dans la discussion. Ce qui est évidemment aussi un élément dont on peut considérer qu'il apporte plus de choses dans la tentative de réduction que ne peut le faire un type de réduction à la Carnap, c'est que, là encore, ce qui est intéressant dans la démarche rallienne, c'est d'essayer de construire l'analyse même des dispositions dans les termes d'une certaine conception humienne, où on fait une distinction tranchée entre ce qu'est une chose et la manière dont elle est disposée à se comporter. Bon. Et donc, cela veut dire que, certes, ce qu'est la chose dépend de ses propriétés, mais lorsque nous essayons de parler des dispositions, finalement, ce n'est pas tellement des choses que nous parlons. Ce dont nous parlons, c'est du fait que, justement, nous avons affaire à quelque chose qui est inséré ou qui dépend d'autres choses. Et donc, qui dépend, en particulier, dans le contexte de Ryle, de lois de la nature. Mais des lois de la nature qui sont entendues comme des régularités humiennes. Vous y êtes ? Bon, donc là encore, il y a une sorte de neutralisation ontologique qui est opérée et qui, pour beaucoup de métaphysiciens, est une manière, là encore, au fond, d'éviter toute une série de questions difficiles qui peuvent avoir trait à une manière de rendre compte des dispositions comme étant, de fait, quelque chose qui a besoin aussi de lois de la nature, mais sans pour autant dire que ce sont des lois qui, de fait, pour cette raison même, parce qu'elle dépendrait en quelque sorte des dispositions, aurait une certaine forme de nécessité. Vous voyez ? Et donc, ce qui est intéressant, évidemment, là encore, dans la stratégie humienne, c'est qu'elle est un peu, dirais-je, déflationniste, puisque, au fond, elle accorde bien l'idée que nous avons des dispositions, mais que ces dispositions ne sont pas elles-mêmes des choses. Mais deuxièmement, finalement, elles sont si peu des choses qu'elles ont besoin de lois. Bon. Et les lois elles-mêmes, que sont-elles ? Bon, eh bien, ce sont des régularités. Donc, on est dans un univers, vous voyez, dans lequel on a affaire surtout à... ce ne sont même plus des choses, ce sont des régularités. On ne voit plus très bien non plus quelle est la différence, en définitive, vous remarquerez, entre les dispositions elles-mêmes et les lois, puisque dans un cas comme dans l'autre, ce sont, je dirais, des quasi-propriétés, d'une certaine manière, ce ne sont guère que comme il le dit, des règles d'inférence, des tickets, n'est-ce pas, qui nous permettent donc de faire un certain nombre d'inférences. À partir du moment où on réduit quelque chose de ce genre, on ne réduit pas grand-chose, en définitive, vous voyez. Donc on a une réduction à bon compte, serais-je tenté de dire, vous voyez. Bon. Puisque, au fond, on n'est même plus capable de dire si nos énoncés comportant des propriétés dispositionnelles sont vrais ou s'ils sont faux, on se contente de considérer est-ce qu'ils sont valides ou pas. Bon. Mais est-ce que véritablement, vous voyez, pour quelqu'un qui veut, qui est attentif à l'idée selon laquelle, justement, notre logique est certes importante, mais qu'elle ne suffit pas à nous donner la réalité d'une propriété, est-ce que présenter l'analyse, la réduction en ces termes, où nous ne parlons même plus, n'est-ce pas, de vérité ou de fausseté, mais simplement de règles d'inférence, qu'est-ce que nous avons au juste? Qu'est-ce qui nous reste? Vous voyez, là encore, on a affaire peut-être à une réduction élégante, hein, qui présente un certain nombre de caractéristiques dont nous ne devrons pas forcément nous débarrasser, mais qui n'est peut-être pas en même temps une forme de réduction suffisamment, dirais-je, robuste pour que nous puissions, à partir d'elle en tout cas, donner sens à une ontologie réaliste des dispositions. Vous voyez ? Bon, alors, je m'explique, je le redis encore, il ne s'agit pas de faire entrer, n'est-ce pas, dans notre ameublement ontologique, des propriétés qui n'auraient pas passé, n'est-ce pas, qui n'auraient pas réussi à l'examen de passage logique et sémantique. Vous y êtes? Donc il est clair que nous avons besoin, à un moment donné, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est possible de réduire. Bon. Mais si d'un côté, les exigences de réduction sont trop fortes, nous ne risquons pas de réussir l'examen. D'un autre côté, si nos exigences de réduction sont trop faibles, nous risquons aussi de ne pas avoir véritablement des critères suffisamment satisfaisants pour que notre ontologie, n'est-ce pas, bien nous permette de conclure à quelque chose comme des propriétés réelles. Vous y êtes? Bon. Donc, or, c'est bien à la recherche de propriétés réelles, je répète, que nous partons. Bien. Donc, c'est effectivement une manière de répondre à certaines difficultés rencontrées, au fond, par d'autres types de réduction, mais d'une manière, vous le voyez, qui, en même temps, ne comporte pas que des avantages. Bien. Alors, en tout cas, si nous voulons ne pas nous contenter de cette manière de procéder sous forme de ticket d'inférence, et si nous voulons vraiment quelque chose qui soit une analyse sémantique et logique suffisamment armée, nous devrons introduire toute une série de clarifications. Par exemple, si nous reprenons l'énoncé X brise, n'est-ce pas, sur la manière dont nous pouvons préciser comment on doit laisser tomber X pour qu'il se brise, vous voyez, dans quoi considérer d'autres symptômes possibles de la fragilité, le fait que la fragilité elle-même puisse comporter des degrés. Donc vous voyez, il faudra que nous introduisions, or est-ce toujours possible? Est-ce que ce n'est pas une tâche aussi insurmontable, c'est pas, alors, si nous sommes obligés d'aller dans de tels raffinements, le type de choses qui permet de tester la fragilité du papier, nous le savons, ne peut pas être le même que celui qui nous permet de tester la fragilité d'un pont. Bon, alors, et on pourrait multiplier, n'est-ce pas, les catégories. Hein, vous imaginez le nombre de critères qu'il va falloir introduire, de distinguo qu'il va falloir introduire pour donner un sens à un petit concept dispositionnel comme fragilité. Au point qu'on peut même considérer que dans certains cas, le concept va peut-être dire une chose ou désigner une chose et son contraire. Donc, à partir du moment où on entre dans une série de degrés et de hiérarchies, c'est toujours extrêmement délicat de savoir jusqu'où, vous voyez, vous pouvez étirer, n'est-ce pas, le sens, la signification du concept, sans perdre totalement, justement, de ce qu'il était tout simplement censé vouloir dire. Qui trop embrasse mal étreint, ça vaut aussi en logique. Bien. Donc, je vous avais pris aussi l'exemple, vous vous souvenez du pont préfabriqué qui se brise si on le fait tomber lorsqu'on l'achemine vers sa destination, mais pas si on le soumet simplement aux vibrations d'une circulation normale. Bon. Quand on parle de la solubilité dans l'eau, on ne parle pas de la même chose que de la solubilité dans l'huile, etc. etc. Vous voyez. Et dans le même cas, vous avez quand même affaire à la même propriété. Vous y êtes ? Bon. Donc, cette question, c'est vrai, de la mutabilité des propriétés, hein, en fonction de ce à quoi elles s'appliquent, du moment où elles s'actualisent, vous voyez, selon les modalités que suit l'objet pour les faire se manifester, risque de poser des problèmes sémantiques et logiques extrêmement difficiles, vous voyez, presque insolubles, à vrai dire. Bon, vous voyez, donc c'est évidemment un peu préoccupant. Bon, en tout cas, il faudra sûrement plus d'inconditionnel pour rendre compte d'une disposition. Alors, la troisième difficulté, c'était celle qui avait trait aux antidotes et aux dispositions traîtresses. Bon. Alors, Hugh Mellor, notamment, dans l'article qui est l'un des plus fameux In Defense of Dispositions, pour défendre les dispositions, a montré que finalement, peut-être que c'est le cas de le dire, on se noyait assez vite dans un verre d'eau, parce que, justement, il était tout à fait possible, s'agissant de cette question des antidotes et des propriétés traîtresses quelquefois, spécifier un petit peu mieux les choses. Au fond, quand vous avez affaire à un énoncé de type antidote, il suffit que simplement que vous spécifiez le genre de circonstance qui est pertinent. N'est-ce pas ? Donc, vous introduisez une clause qui vous permet par exemple de dire si on laissait tomber X sans qu'il cesse d'être fragile, alors il se briserait. Vous voyez ? Donc, sans qu'il cesse d'être fragile est introduit pour éviter évidemment le fait que vous puissiez parvenir justement à un résultat non valide parce que vous auriez omis de considérer la possibilité, n'est-ce pas, du cas d'antidote. Bon. Mais en même temps, il n'est pas sûr tout de même que régler le problème ainsi, donc vous voyez, en aménageant en quelque sorte l'énoncé conditionnel, qu'on pourrait appeler évidemment encore un énoncé de réduction, soit totalement satisfaisant, parce que vous aurez noté que l'énoncé de réduction lui-même contient le prédicat « fragile ». Bon, ça revient donc à dire qu'il est en quelque sorte circulaire ou simplement tautologique, n'est-ce pas ? Alors, Mellor n'y voit aucun inconvénient. Il dit, oh, eh bien, c'est vrai que pour savoir ce que signifie fragile, dit-il, tout ce qu'il faut savoir, c'est que par définition, seuls restent ou deviennent fragiles les choses qui, lorsqu'on les laisse tomber, d'une certaine façon, se briseront. Bon. Mais en même temps, je ne suis pas sûre que l'énoncé ne soit tout de même pas un peu circulaire. Bon, il a certainement raison de dire que tout ceci nous renseigne bien, n'est-ce pas, sur quelque chose d'inéliminable dans la manière dont nous apprenons le sens des prédicats dispositionnels. Vous voyez ? Bon. En l'occurrence, de façon, en règle générale, holistique. Vous voyez ? Et sur l'arrière-plan aussi, je crois que c'est un élément important pour comprendre la sémantique des énoncés dispositionnels et le sens qu'on peut donner, vous voyez, sur fond de ce que le logicien Peirce appelait des observations collatérales.
n'est-ce pas ?
C'est-à-dire que nous ne réduisons jamais, nous ne faisons jamais un énoncé de réduction sans présupposer tout un arrière-plan de signification ou de propriété qui s'attache en réalité aux prédicats que nous utilisons. Nous ne les utilisons jamais sous la forme, là encore, d'atomes isolés. Il n'y a pas d'atomisme sémantique, si vous voulez. La signification est quelque chose qui se joue de façon holistique et donc il est évident que quiconque a en quelque sorte le prédicat soluble en tête lorsqu'il fait un énoncé de réduction a, avec le concept de solubilité, déjà toute une série de clauses éventuellement qui s'attachent à la signification de la solubilité, qui font que, au fond, presque automatiquement, soit il tombe sur la bonne, la bonne clause qu'il faut introduire, soit que presque automatiquement, et peut-être de façon encore plus intéressante, il élimine toute une série de clauses non pertinentes. Vous voyez ? Donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait qu'un énoncé, c'est toujours quelque chose qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans un réseau holistique de sens, et que, malgré tout, c'est une manière aussi de dire que nous, peut-être que si nous n'avons pas des critères impeccables de réduction, quand même, on arrive à quelque chose qui est très souvent a du sens, vous voyez, ou en tout cas n'est pas totalement dépourvu de sens. Donc il faut peut-être, là encore, ne pas se plier à des exigences, au fond, comme pouvait l'être celle du positivisme logique d'une certaine époque, en tout cas, s'agissant, en effet, des conditions auxquelles doit satisfaire un énoncé pour qu'il puisse être dit doué de sens. Donc, c'est vrai que le problème, quand même, c'est que des énoncés de réduction de type carnapien sont des énoncés qui, et c'est pour ça qu'en tout cas, dans le cas de la réduction carnapienne, on ne lève pas la difficulté, ce sont des énoncés qui sont censés moins s'appuyer sur des observations, hein, le terme étant entendu finalement en un sens relativement indéterminé, vous voyez, que de remonter à des énoncés observationnels de base. Or, les difficultés qui entourent le statut de tels énoncés de base sont notoires, n'est-ce pas ? Bon. Et en vérité, il n'est pas sûr qu'on ait encore trouvé une solution satisfaisante pour véritablement parvenir à des réductions à ce type d'énoncé observationnel de base. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout le problème de savoir qu'est-ce que c'est qu'une base observationnelle, n'est-ce pas ? Et c'est notamment la question de savoir si nous pouvons distinguer aussi aisément que le croit Carnap ce qui est de l'ordre d'un énoncé observationnel stricto sensu et ce qui est de l'ordre d'un énoncé théorique. L'une des critiques que fera Carnap, justement, au positivisme logique et celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas en toute rigueur de distinction tranchée entre des énoncés observationnels et des énoncés théoriques. N'est-ce pas ? Bon, et donc, si Putnam a raison, comme nous tendons actuellement plutôt à le penser, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas tirés d'affaire si nous croyons que la solution, n'est-ce pas, proposée par Carnap, consistant à revenir finalement, à asseoir nos énoncés dispositionnels sur des énoncés observationnels de base, n'est-ce pas, serait évidemment la réponse à toutes les difficultés. Bon. Quatrième difficulté, la difficulté sémantique, et alors là, last but not least, bon, c'est une évidence, n'est-ce pas ? C'est, nous savons tous que lorsque nous essayons de comprendre notre disposition au courage, notre disposition à la justice, à dire d'une personne qu'elle est courageuse, qu'elle est honnête, qu'elle est belle, c'est très très difficile de dire qu'elle est bonne. C'est très très difficile de donner un statut à une propriété de cette nature si nous nous contentons d'essayer de ramener un énoncé comportant une propriété de ce genre, ben, tout simplement à un ensemble de conditions extrêmement précises et spécifiables. Bon. Il ne suffit pas apparemment de faire la liste des énoncés de réduction pour arriver au sens, à la signification de l'énoncé en question. Le propre de tous les énoncés qui font sens, n'est-ce pas, c'est justement, c'est un point sur lequel Peirce a beaucoup insisté, c'est le fait que la signification est prise en permanence dans une chaîne d'interprétants ouverte et qu'elle ne peut pas, s'agissant en particulier de ce type de propriété, justement, avoir le fin mot de l'histoire. Ce pourquoi l'une des caractéristiques fondamentales, disait Peirce, d'une disposition, c'était son caractère indéterminé, irréductiblement indéterminé. Vous voyez ? Bon. Donc, si là encore, l'indétermination est une caractéristique réelle d'une disposition, et Peirce pensait du reste que ça ne valait pas seulement pour les dispositions psychologiques, vous voyez, là encore, on risque d'avoir des problèmes. Encore que, n'est-ce pas ? Encore que, là encore, il faut peut-être être moins pessimiste que nous pourrions le dire au préalable. Parce que pourquoi faudrait-il considérer en effet que nous avons donné le sens d'un énoncé dispositionnel lorsque nous l'avons réduit, n'est-ce pas, à toute une série d'énoncés parfaitement spécifiables, etc. Est-ce que justement la signification n'est pas aussi quelque chose qui doit nous permettre à certains moments de faire intervenir quelque chose comme du vague, de l'indétermination. Je ne vais pas entrer dans cette question aujourd'hui, naturellement, parce que c'est une question extrêmement complexe. Je dirais simplement que lorsque je dis ça, je ne veux pas du tout dire que le vague, ce serait une propriété sémantique qui, du fait de son introduction, nous mettrait du même coup en confrontation avec quelque chose comme de l'ambiguïté ou du flou, de l'imprécision, et donc comme quelque chose, naturellement, qu'il faut, autant que possible, absolument éviter dans l'exercice de la pensée. N'est-ce pas ? Mais, justement, ce sur quoi il faut peut-être s'interroger, c'est sur le fait qu'il y a peut-être une forme du vague, de l'indétermination, qui est bel et bien de nature sémantique, mais qui serait inéliminable. Bon, non seulement parce que dans un certain nombre de nos énoncés, nous aurions à faire, dans certains cas, des prédicats vagues, et peut-être que justement les prédicats dispositionnels sont de ce type, comme le sont des prédicats de couleur ou les prédicats sorites, n'est-ce pas, le chauve, etc., à partir de combien de cheveux peut-on dire d'un individu qu'il est ou non chauve, n'est-ce pas, à partir de combien de grains de sable peut-on dire d'un tas qu'il est... vous voyez, qu'il est un tas ou qu'il reste un ensemble de grains de sable, vous voyez, mais pas encore un tas. Bon, c'est toute la question de savoir comment vous rendez compte, justement, du vague qui peut s'attacher à certains prédicats bien particuliers. Bon. Mais le vague sémantique, ce n'est pas seulement quelque chose qui a trait, vous voyez, à la nature de certains de nos prédicats, mais c'est aussi quelque chose qui peut-être est lié à certaines caractéristiques irréductibles du fonctionnement de nos énoncés, vous voyez. Et au fait que, précisément, la plupart du temps, nos énoncés reposent justement sur un certain nombre d'habitudes qui sont les nôtres, hein, que nous introduisons dans la manière dont nous comprenons les choses, dont nous parlons, dont nous élaborons un certain nombre de propositions, mais pour lesquelles il nous est absolument impossible d'apporter une véritable justification. Si par là, on veut dire que, justement, il est possible de les soumettre, vous voyez, à des critères comme ceux dont je suis en train de parler actuellement. Bon. Donc, vous voyez, quand je parle de vague sémantique, je ne parle pas non plus de vague épistémique, c'est-à-dire de vague qui aurait trait simplement à certaines limitations de notre faculté de connaître, vous voyez, ou qui viendrait de ce que nous ne sommes pas encore au clair dans nos idées, et donc et énonçons un certain nombre de choses parce que nous ne sommes pas encore allés jusqu'au bout du travail de connaissance que nous devons mener, n'est-ce pas ? Bon, auquel cas, en effet, le vague épistémique, c'est bien entendu quelque chose aussi qu'il faut nous employer à éliminer. Hein ? Bon. Mais peut-être qu'il y a des formes de vague du côté de la sémantique et peut-être aussi, pourquoi pas, du côté de l'ontologie, n'est-ce pas ? C'est-à-dire peut-être qu'il y a dans la réalité aussi, même si cette idée que je défends pour ma part depuis un certain nombre d'années ne rencontre pas beaucoup de faveur en métaphysique, chez les métaphysiciens, parce que cette idée selon laquelle la réalité pourrait se présenter sous la forme justement d'entités vagues est une idée qui paraît à beaucoup farfelue. Comment pouvez-vous sortir quelque chose de tel ? Il est évident que ce à quoi nous avons affaire, n'est-ce pas, dans notre ontologie, c'est à ce livre, à cette bouteille, à ce livre qui est à côté de cette bouteille. Donc nous pouvons parfaitement, vous voyez, avoir des entités individuelles, atomisées, des particuliers, n'est-ce pas, situés les uns à côté des autres, et ça suffit. Un nominaliste est parfaitement satisfait de cette manière des choses. Donc, quelqu'un qui viendrait vous dire « Ah, mais attendez, est-ce que vous êtes bien sûr que vous êtes capable de déterminer la frontière entre ce livre et, par exemple, ce plateau ?» C'est quelqu'un qui vous paraîtrait tout de même un petit peu étrange, n'est-ce pas ? Et pourtant, réfléchissez un petit peu à cette question du vague, aussi bien sur le plan ontologique que sur le plan sémantique. Je prends le plan sémantique. Supposez que je vous fasse un énoncé tel que « je veux une tasse de thé ». Cet énoncé, il n'est pas particulièrement précis, parce que je ne vous dis pas quel type de thé je veux. C'est pas ? Je devrais, en un sens, réduire mon énoncé de telle manière, je vous dis « je veux ou de l'Earl Grey ou du Lapsang Souchong », n'est-ce pas ? Etc, etc, etc. J'en ai pas fini, d'ailleurs, dans la liste. Hein ? Bon. Et je veux une tasse, ça sera comment ? En porcelaine ? En faïence ? En grès ? Qu'est-ce que je veux ? Bon, donc l'énoncé, si vous réfléchissez, vous comprenez parfaitement ce qu'il veut dire, et pourtant il comporte toute une série d'éléments parfaitement vagues. N'est-ce pas ? Et je dirais même que c'est parce que, d'une certaine manière, il comporte un certain nombre d'éléments indéterminés qu'il fonctionne bien dans le langage ordinaire. Vous y êtes ? Donc il est fort possible que dans le langage ordinaire, nous ayons besoin, précisément, pour que nos énoncés aient du sens, de laisser un certain, je ne dirais pas flottement, parce que justement, ce n'est pas de l'ambiguïté. Ça n'a rien d'ambigu, cet énoncé, n'est-ce pas ? Simplement, il peut se faire que quelquefois, en étant trop précis, on ne se fait pas comprendre. C'est pour ça que quelqu'un qui dirait « je veux une tasse de thé qui est ceci, qui n'est pas cela, etc. », dans une tasse, apparaît plutôt comme un maniaque, n'est-ce pas ? Ou comme quelqu'un qui a perdu le sens des choses et du discours, n'est-ce pas ? Vous voyez ? Donc, pour que vous compreniez pourquoi, finalement, cette idée de vague sémantique n'est pas forcément quelque chose qui est en soi totalement dénué de pertinence. Je passe maintenant aux vagues ontologiques. Oh là là, là c'est terrible, n'est-ce pas ? Comment il ne peut pas y avoir de vagues dans la nature ? Bon, alors, est-il si facile, notamment dans les villes américaines, de dire où commence la ville, où s'arrête la banlieue ? Est-il aussi facile de dire où commence la montagne, où commence la plaine ? Le monde tout entier, il est fait de choses dont les contours ne sont pas si délimités que nous aimerions qu'il soit, n'est-ce pas ? Là, nous avons l'impression, mais après tout, si nous regardons les choses sur le plan moléculaire, tout ça finit par s'estomper, n'est-ce pas ? Donc les limites que nous traçons dans l'univers physique, ce sont quand même des limites que nous traçons parce que nous avons une certaine ontologie, sans doute aussi certaines catégories perceptuelles qui font que notre agencement perceptuel nous conduit plutôt, vous voyez, à catégoriser d'une manière que d'une autre, mais qui nous dit que ces catégories correspondent véritablement à des catégories ontologiques. Vous voyez ? Bon, et d'une certaine manière, on peut comprendre que certains réalistes qui admettent donc quelque chose comme des propriétés vagues puissent avoir, surtout s'ils n'ont pas une vision très... s'ils n'ont pas toujours les lunettes sur le bout de leur nez, et qui voient les choses un peu dans le brouillard, est intuitivement une ontologie beaucoup plus proche de celle-là, n'est-ce pas, qu'une ontologie nominaliste. Bon, vous voyez, je voulais un petit peu vous conduire à l'idée simplement que peut-être que la signification vers laquelle nous essayons de conduire notre réflexion, si nous voulons simplement réfléchir pas seulement sur le plan de la logique, mais de la sémantique même des énoncés dispositionnels, il ne faut peut-être pas forcément non plus, peut-être, éviter trop vite de se dire qu'elle doit être conduite de telle manière et pas de telle autre, ou voir dans le fait que nos énoncés comportent une forme d'indétermination, peut-être irréductible, que c'est un défaut des dix énoncés. Au contraire, c'est peut-être ce qui permet aux énoncés de fonctionner et d'avoir du sens. Vous voyez ? Donc je crois que, là encore, il faut être très très attentif au fait que les difficultés courantes que l'on attribue aux énoncés dispositionnels sont des difficultés que peut-être nous devons réévaluer à la lumière d'un certain nombre de nuances comme celles que je viens d'évoquer. Voilà. Alors, bien entendu, quand je dis cela, inutile de vous dire que je ne perds tout de même pas de vue le fait que tous les prédicats dispositionnels, comme n'importe quel prédicat, doivent remplir une exigence minimale, et cette exigence, tout simplement, c'est la capacité référentielle qui est la leur à parler du monde. Bien. Quand on en vient à la question de la manière dont les énoncés doivent faire référence aux choses et pas simplement avoir du sens, n'est-ce pas ? Peut-être que là, nous sommes obligés de faire intervenir un certain nombre de critères, notamment des critères d'identité, auxquels nous ne pouvons tout simplement pas, dont nous ne pouvons tout simplement pas nous dispenser. Bien. Alors, comment est-ce que nous pouvons introduire des critères qui nous permettraient donc d'affirmer un peu mieux la réalité d'une propriété dispositionnelle? Il y a une première manière, c'est de considérer, c'est notamment la proposition que font Hugh Mellor et Oliver, c'est de considérer qu'une propriété, c'est quelque chose qui est naturel et donc dont on pourra tester la réalité, si vous voulez, parce qu'elle implique... pour deux choses qui l'ont en partage, des ressemblances réelles. Bon, si par exemple nous disons qu'il y a une propriété telle que le fait d'être fragile, eh bien, nous serons, semble-t-il, tenus de dire que deux choses, quelles qu'elles soient, qui l'ont en partage, doivent se ressembler, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, que l'on ne retrouvera entre aucune autre chose. Bon. Donc, vous voyez que si on dit ça, on reste relativement encore là dans l'indistinct, s'agissant de savoir quel sens on donne à ces propriétés, n'est-ce pas ? Est-ce que ce sont des universaux ? Est-ce que ce sont des classes de toutes leurs instances possibles, des classes de ressemblance de particuliers ordinaires, ce qu'on appelle des tropes. Bon. On n'a pas besoin, au fond, de postuler quoi que ce soit de très précis s'agissant donc de la nature des propriétés. Il suffit, au fond, de présupposer simplement que les propriétés, quelles qu'elles soient, sont des constituants de truth makers, de vérifacteurs, pour des propositions, et que donc, on peut en effet les faire entrer dans des propositions conditionnelles comme ceux que nous avons évoqués. Donc c'est vrai que Nous avons, enfin, il est assez facile de voir que si nous réfléchissons notamment à un certain nombre de propriétés scientifiques, eh bien que ces propriétés remplissent ces conditions. Par exemple, la masse de m unités d'une chose a fait à l'évidence partie de ce qui rend vrai pour tous les f que n'importe quelle force f qui n'a pas changé m ferait accélérer a à f sur m en direction de f. Mais en même temps, pourquoi est-ce que, malgré tout, vous voyez, nous sommes réticents à analyser une propriété comme la fragilité, de même que nous analysons une propriété comme la masse? Eh bien, pour une raison qui saute aux yeux, c'est que, alors que c'est la même propriété, vous voyez, qui fait que toutes les choses de 10 kg satisfont ce prédicat, ce n'est pas forcément la même propriété, n'est-ce pas, qui fait que toutes les choses fragiles satisfont un énoncé de réduction de la fragilité. Bon. Pourquoi ? Bien parce que, je le répète, des choses de toutes sortes peuvent être rendues fragiles par des propriétés tout à fait différentes. Vous voyez, donc, on est en permanence confronté, là encore, à cette difficulté. Et c'est vraiment... C'est la raison fondamentale pour laquelle le terme de fragilité finit, comme le terme de solubilité ou d'élasticité, c'est pareil, n'est-ce pas, finit par donner l'impression que nous ne nommons en définitive aucune propriété du tout. Bon. Donc, après tout, peut-être que, en effet, il n'y a rien de tel que la fragilité, il n'y a peut-être que des bases, différentes propriétés catégoriques qui font que des choses de différentes sortes satisfont le prédicat est fragile. Alors, je crois que, en même temps, si nous disons ça, nous retombons donc dans ce dans quoi nous ne voulons pas retomber, c'est-à-dire le piège catégoricaliste. Mais nous ne voulons pas non plus, inversement, tomber dans le deuxième piège, qui est la tentative ou la tentation idéaliste, qui admettrait d'emblée l'idée que le monde est composé de deux types de propriétés, les catégoriques et les dispositionnelles, mais que ces propriétés, au fond, sont des propriétés qui sont simplement non existantes ou intentionnelles. Je crois qu'on n'a pas non plus envie de proposer une troisième solution pour se tirer de cette difficulté qui consisterait à dire que l'objet aurait en quelque sorte deux propriétés, à savoir la fragilité, F, et l'une de ses bases, B. Ça, c'est par exemple une solution qui a été envisagée par Charles Martin, dans le débat qu'il a eu avec David Armstrong, et qui lui a fait dire que, par exemple, au fond, on n'a pas à considérer qu'une propriété, quelle qu'elle soit, est en soi entièrement qualitative ou catégorique, ou entièrement dispositionnelle. Nous pouvons simplement dire que F est simplement identique à l'une de ces bases. Bon, mais si nous disons simplement cela, c'est-à-dire si, nous essayons de dire que nous avons simplement affaire à deux propriétés, en restant un petit peu dans le vague, comment allons-nous dire ce qui, de F ou de B, sera la cause des effets de la fragilité de A, tel que le fait qu'il se brise si on le fait tomber? Qu'est-ce qui va être vraiment... Qu'est-ce qui va jouer, vous voyez, dans l'une ou dans l'autre des propriétés, le véritable rôle causal? C'est très, très difficile à dire. Bon. Donc, là encore, si, je vous le rappelle, nous avons besoin de conserver quelque chose comme cet efficace, ce pouvoir causal des dispositions, je ne pense pas qu'une solution de ce type sera particulièrement satisfaisante. Quatrième tentative, qui a été due à justement certains auteurs qui ont essayé, notamment c'est le cas d'Elizabeth Pryor et de Frank Jackson en 82, ils ont essayé de dire que, au fond, on peut simplement, pour expliquer le lien entre F et B, dire que F est une propriété de second ordre qui consisterait à avoir l'une des propriétés de premier ordre qui sont ses bases. Donc vous voyez, on introduit en quelque sorte une sorte de hiérarchie par introduction d'ordre premier, second, etc. Bon, je ne suis pas sûre non plus qu'on y gagne grand-chose. Alors, cinquième tentative, évidemment, c'est celle qui est la plus tentante, c'est celle qui consiste à dire que nous trouvons un critère véritablement de réalité de la disposition dès lors que nous pouvons montrer qu'elle figure dans une loi actuelle de la nature. Par exemple, dans le cas de la masse, lorsqu'on montre qu'elle figure dans les lois de l'inertie et de la pesanteur. Et donc, c'est une autre suggestion que fait notamment Sidney Shoemaker, qui est un de ceux sur lesquels je reviendrai parce qu'il est celui qui, à mon avis, a défendu la position la plus intéressante pour expliquer les liens entre la causalité et les dispositions. Justement. L'idée de Shoemaker est celle-ci, dans un texte donc, qui est désormais un classique, Causality and Properties. Shoemaker dit que on peut définir les propriétés par la manière dont elles se combinent, vous voyez, pour fixer les pouvoirs causaux des choses. Vous voyez, par exemple, si vous prenez le cas d'un couteau, pour que le couteau puisse couper, il faut qu'il ne coupera pas tout seul si, par exemple, il est en papier, le dit couteau. Vous y êtes ? Ou s'il est en gruyère, n'est-ce pas ? Donc, il faut que, pour que le couteau ait la propriété causale de couper, n'est-ce pas ? Il faut que son efficace causale soit, au fond, activée, d'une part, par le fait que l'objet possède d'autres propriétés, n'est-ce pas ? En particulier le fait, justement, par exemple, qu'il soit en acier et pas en papier, vous voyez ? Et le fait aussi que ce qu'il y a à couper, c'est-à-dire ce qui reçoit, au fond, la cause, l'effet, n'est-ce pas ? Soit, d'une certaine manière, accueillant à l'égard de l'objet et du réseau causal dont cet objet est constitué. Vous y êtes, n'est-ce pas ? Allez essayer de couper du marbre avec un ciseau ou un couteau en acier. Bon, vous pourrez couper du pain, vous pourrez couper du beurre, mais vous ne pourrez pas couper du marbre. Donc vous voyez, il semble qu'il faille, pour que les propriétés aient une réalité, et là on revient encore à cette question des pouvoirs causaux, vous voyez, qu'il y ait vraiment une combinaison entre les propriétés de la chose et les pouvoirs causaux qu'elle est capable d'avoir, n'est-ce pas ? Et c'est de cette imbrication entre propriétés et pouvoirs causaux que l'on parvient véritablement à déterminer ce de quoi les choses sont faites et comment elles s'agencent les unes avec les autres dans la réalité. Vous y êtes ? Bon. Donc c'est très très important, évidemment, de commencer à voir que une solution, en tout cas, est celle qui va nous tendre à nous conduire vers cette idée d'une combinaison de pouvoirs causaux des choses. Bien. Vous voyez que, en la circonstance, pour que le ciseau coupe, je n'ai pas besoin ici, faites bien attention, de recourir à une loi nécessaire de la nature. Je peux simplement me contenter, vous voyez, de tenir d'ailleurs les lois pour des lois parfaitement humiennes, contingentes. Mais ce dont j'ai besoin, en revanche, c'est bien de certaines propriétés des choses et de certains pouvoirs causaux des choses. Hein ? Bon, peut-être pas de loi. Hein ? Je pense que si. Mais enfin, vous voyez que la tentation peut être forte, dans une perspective de cette nature, de considérer que les lois, après tout, sont peut-être superflues. Il n'y a peut-être dans la nature que des choses avec telles ou telles propriétés qui, en fonction des pouvoirs causaux dont elles sont dotées, eh bien, permettent aux choses de s'intégrer, de se lier les unes aux autres, etc. Et c'est évidemment ce qui tente un certain nombre de métaphysiciens dispositionnalistes, qui considèrent que, au fond, il suffit que nous ayons des choses, des dispositions, et voilà, tout marche. Des pouvoirs, des capacités, on n'a pas besoin de loi. C'est pas, tout fonctionne. Bon, nous verrons que c'est quand même peut-être pas tout à fait satisfaisant. Mais c'est tentant, de fait. Hein? Bon. Donc, supposons quand même que nous nous attardions quand même un petit peu à justement cette idée selon laquelle, pour vraiment donner un critère de réalité à nos dispositions, nous essayons malgré tout quand même de les intégrer dans notre univers nomique. Donc, à les intégrer quand même à la manière dont elles s'intègrent à un réseau de lois. Par exemple, nous dirons, dans un monde newtonien, A aura une masse M si et seulement si il a une propriété M, telle que A serait accéléré à F sur M par n'importe quelle force F qui n'altère pas M, qu'il attirerait d'autres choses avec cette propriété à une distance R avec une force proportionnelle à M2 sur R2, et ainsi de suite pour toutes les autres lois actuelles dans lesquelles figurent des masses. Bon, ce à quoi je fais référence ici, vous voyez, c'est à toute une série d'énoncés de réduction qui suffisent à distinguer toutes les masses les unes des autres et de toutes les autres propriétés factuelles. Attardons-nous un instant sur ce critère qui est proposé, dont se fait notamment l'écho Max Kistler dans son livre que je vous recommande, Causalité et loi de la nature. Kistler dit ceci dans le livre, dans ce livre qui date de 1999, pas de bêtises, peut-être plus. Oui, c'est ça, 1999, Kistler dit ceci. Une propriété est réelle si et seulement si elle figure dans une loi de la nature. Bon. Et selon lui, nous disposerions ainsi d'un critère d'identité de la propriété. Je rappelle que nous sommes à la recherche tout de même de critères d'identité nécessaires et suffisants. Hein. Bon, quand même. Bon, eh bien, oui, en tout cas, nous disposerions d'un critère nécessaire et suffisant, assez en tout cas pour être ontologiquement admissible. Nécessaire en effet, pourquoi ? Parce que, dit Kistler, je le cite, page 231 de son livre, « deux prédicats P et P' font référence à une propriété unique si et seulement si leurs référents ont des rapports nomiques identiques avec les autres propriétés. Cette condition est nécessaire. Si P est nomiquement lié à Q, mais non à Q', et P' est nomiquement lié à Q', mais non à Q, alors P et P' sont des propriétés différentes. Par exemple, la propriété d'avoir une masse équivalente à telle unité est nomiquement liée à l'attraction gravitationnelle, mais non à l'attraction électrostatique. En revanche, la propriété d'être porteur de la charge élémentaire E est nomiquement liée à l'interaction électrostatique, mais non pas à l'attraction gravitationnelle. Par conséquent, ces propriétés sont réellement différentes, vous voyez, car elles apparaissent, dit-il, dans des lois différentes. Fin de citation. Mais, ajoute-t-il, ce critère ne serait pas seulement nécessaire, il serait suffisant. Pourquoi ? Eh bien, je poursuis la lecture, page 231. Si toutes les propriétés dont on est fondé à affirmer la réalité font partie intégrante du réseau des relations nomiques, alors nous pouvons utiliser leur position relativement à ce réseau comme critère de leur identité. La propriété de porter la charge électrique élémentaire est déterminée par sa relation nomique au champ électrique qu'elle engendre autour d'elle, par sa relation nomique à la propriété d'attirer ou de repousser des charges électriques, par la loi selon laquelle elle résiste à toute décomposition en charges électriques plus petites et par l'ensemble des autres lois, peut-être en partie inconnues, dans lesquelles elle figure. Fin de citation. Bon, mais Kissler, tout en ayant dit cela, et nous ayons donc donné l'espoir, n'est-ce pas, que nous cherchons d'avoir un critère nécessaire et suffisant d'identité de la propriété que nous recherchons, ajoute ceci, malheureusement, s'il suffit pour qu'il y ait une propriété, qu'elle entre dans une loi de la nature, l'instanciation d'une loi de la nature n'est pas suffisante pour distinguer un pseudo-processus d'un processus causal. Ainsi, un objet hypothétique qui exemplifie uniquement des propriétés qui n'ont aucun pouvoir de provoquer des interactions n'existerait tout simplement pas. Un objet étant, et là il rejoint tout à fait justement un des aspects sur lesquels Ryle avait insisté et sur lequel j'ai aussi insisté, un objet étant moins une substance qu'un complexe de propriétés instanciées, voyez, tout ce qui est requis pour qu'une propriété instanciée F puisse être causalement efficace, c'est qu'elle soit instanciée dans l'événement cause. Prenons un exemple, l'exemple d'un fil de fer qu'on définira comme le complexe de propriétés instanciées dans la région spatio-temporelle qu'il occupe, n'est-ce pas ? Bon. Ce qui fait, dit Kissler, l'objet de rapports réguliers et nomiques, ce sont les propriétés simples qui forment ce complexe individuel. Ainsi, une des propriétés que le fil de fer partage avec d'autres échantillons du même élément que lui est la structure de ses électrons, plus précisément la répartition en bandes d'énergie propres à chaque élément. C'est cette propriété-là, et elle seule, qui détermine certains types de comportements causaux. Par exemple, sa capacité de conduire le courant électrique. D'autres propriétés, telles que la structure cristalline des noyaux atomiques, contribueront à déterminer, outre ses propriétés électroniques, d'autres types de comportements, par exemple sa conductivité thermique. Fin de citation, c'est page 222. Donc, vous voyez, si on le suit, même si on admet, en le suivant, que, d'une certaine manière, les propriétés ont des critères d'identité nécessaires et suffisants dès lors qu'elles s'intègrent dans un système nomique, on voit bien en même temps que, si on ajoute à cette idée le fait qu'on a besoin aussi, pour distinguer un pseudo-processus d'un processus causal d'autre chose que l'instanciation de la loi, alors nous aurons beaucoup de mal à ne pas considérer que toutes les propriétés intrinsèques sont dispositionnelles puisqu'elles sont toutes causales, n'est-ce pas ? Dans la mesure où, je cite Kissler, les interactions auxquelles elles donnent lieu sont la seule raison que nous avons de postuler leur existence. Ainsi, dire d'un objet qu'il est soluble dans l'eau présuppose qu'il existe des circonstances causalement efficaces qui provoquent un comportement typique pour la solubilité. Placé dans ces circonstances, l'objet en question se dissout. Mais vous voyez, et c'est ça quand même qui fait que cette dernière tentative intégrative, au fond, nous laisse un petit peu sur notre faim, c'est que certes, les dispositions ici semblent bien fonctionner avant tout comme une explication causale. Voyez ? Donc, elles ont bien un caractère explicatif indéniable. Mais on ne parvient toujours pas, dans ce cadre, à déterminer quel est l'élément explicatif déterminant qui permet d'identifier, n'est-ce pas, la disposition. Je répète, est-ce la capacité causale intrinsèque de la propriété? Est-ce sa capacité interactionnelle et donc relationnelle? Ou le fait qu'elle s'inscrive sous la juridiction d'une loi de la nature? Vous voyez? Bon, alors, me direz-vous, et c'est ce que pensent certains, peut-être que ce n'est pas tout à fait décisif, vitalement décisif, de chercher à en décider. Et c'est vrai que nous allons le voir, un certain nombre de métaphysiciens, plutôt neutralistes, finissent par conclure en ce sens. Et donc à dire, oh, eh bien, au fond, les propriétés n'ont pas en elles-mêmes à être ou bien dispositionnelles ou bien catégoriques. Celles qui existent peuvent simplement être. Bon. Bon. Mais le problème, c'est qu'une fois de plus, le pas que nous avons fait, n'est-ce pas, est plutôt encore en faveur du neutralisme plutôt que du réalisme. Non. Alors peut-être que ça vous satisfait, je peux comprendre, parce que ça satisfait beaucoup de métaphysiciens, mais je considère pour ma part qu'on n'a pas tout à fait rempli nos promesses. N'est-ce pas ? Bon. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit très rapidement pour finir, mais je tenais donc, vous voyez, à mieux expliquer les choses aujourd'hui, pourquoi, si on en reste à ce type de solution, n'est-ce pas, on reste confronté à un véritable trilemme. Hein ? Ou bien, je le répète, les termes du trilemme, ou bien on définit les dispositions, j'espère que tout le monde a bien compris à présent, on définit les dispositions comme des propriétés intrinsèques et suffisamment autonomes pour exercer à elles seules un pouvoir causal, auquel cas on ne sort pas, pas beaucoup, c'est ça la crainte en tout cas, vous voyez, d'une conception aristotélicienne ou médiévale en tout cas des dispositions, comme operari sequitur esse, et on court en permanence le risque de se voir justement accusé de revenir à une forme de scolastique totalement évaporée, vous voyez, ou dormitive, n'est-ce pas ? On fait revenir les pouvoirs par la fenêtre, ou par la grande porte, après les avoir jetés par la fenêtre, plus exactement. Bon, ou bien, deuxième hypothèse, on définit les dispositions à partir de leur insertion dans les lois de la nature, vous voyez ? Donc, qui est la dernière solution que j'ai envisagée en partant de l'option que propose Max Kistler. C'est vrai que dans une hypothèse de ce genre, le problème, c'est que les dispositions vont finir par apparaître en définitive moins comme des propriétés que comme des assemblages de causes, voyez, ou même des processus événementiels ou relationnels, voire des modes de présentation purement et simplement des phénomènes. Mais alors, en quoi est-ce qu'elle garde le pouvoir causal intrinsèque dont nous avons besoin si nous voulons leur accorder une efficacité causale intrinsèque, hein? Bon. Ou bien alors, ben voilà, justement, on souscrit carrément à un dispositionnalisme carrément essentialiste. On reconnaît aux dispositions cette capacité. On dit que ce sont des essences réelles, des espèces naturelles, des processus qu'elles décrivent, et qu'elles sont suffisamment robustes pour sous-tendre eux-mêmes les lois de la nature, voire pour déterminer quelles lois existent ou comment les choses sont disposées à se comporter. Mais vous voyez que cela implique un... qu'on revienne peu ou prou à une forme d'essentialisme. Bon, est-ce qu'on y est prêt ? Il faudra que nous examinions de plus près la chose, parce que ce n'est pas non plus évidemment sans risque. Hein ? Est-ce que nous sommes prêts ensuite à ce que cela implique aussi, c'est-à-dire, au fond, à rejeter la conception humienne des lois comme régularité contingente au profit d'une conception prescriptiviste, et nécessitariste des lois. Voilà. Donc, je crois que, malgré tout, même si nous avons fait quelques petits progrès dans la résolution des difficultés, je crois, par les différentes stratégies que nous avons commencé par évoquer, et en voyant à quel point, justement, il faudra peut-être garder ce que les unes et les autres peuvent avoir d'intéressant, n'est-ce pas, pour vraiment asseoir notre propre interprétation des choses. Pour le moment, il me semble que nous n'avons pas exactement répondu à toutes les questions. Bon, il y a une dernière question qui se pose. La question que je suis en train de me dire, c'est si je l'aborde aujourd'hui ou si je vous laisse un petit peu de temps pour les questions. C'est à celle de savoir justement si nous pouvons donner un sens à la distinction elle-même, vous voyez, dans le cadre de nos attributions, entre justement des attributions d'ordre catégorique et des attributions d'ordre dispositionnel. Est-ce que cette distinction, vous voyez, sémantiquement et logiquement, a lieu d'être ? Là, évidemment, il faut voir quels sont les arguments en faveur du maintien de la distinction sur le plan donc, sémantique et quels sont les arguments qu'on peut opposer. Bon, et faire, là encore, la part des choses. Mais comme je vous ai promis que je vous laisserai une petite demi-heure pour que nous puissions un petit peu échanger et discuter, je crois que je vais peut-être pour aujourd'hui m'arrêter là en vous remerciant de votre attention.